Manuel Bompard, je suis directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.
Quelle est la position de Jean-Luc Mélenchon concernant le nucléaire et le gaz de schiste ?
Alors sur la question du nucléaire, nous avons affiché à plusieurs reprises l'objectif d'une sortie du nucléaire qui soit une sortie progressive. Pourquoi ? Parce que c'est une industrie qui, sans doute, à un moment dans l'histoire, a été un vrai progrès technologique et une vraie force collective, y compris pour le peuple français, d'arriver à mettre en place cette technologie, mais qu'on considère aujourd'hui que les risques liés à l'utilisation du nucléaire sont extrêmement forts, extrêmement préoccupants, que c'est par ailleurs une énergie qui est extrêmement coûteuse, notamment les projets aujourd'hui qui sont les projets de grand carénage qui visent en fait à prolonger la durée de vie des centrales nucléaires coûtent extrêmement cher, en fonction des évaluations, mais c'est plusieurs centaines de milliards d'euros. Et nous on considère qu'avec cet argent-là, plutôt que de prolonger la durée de vie des centrales, nous pensons qu'il faut au contraire développer les énergies renouvelables, avec un objectif dans le programme qui est de passer à 100% d'énergie renouvelable en 2050. Ce qui me permet de répondre aussi à la deuxième question. Clairement, la sortie du nucléaire pour nous, elle passe pas par une substitution par des énergies carbonées. Or, aujourd'hui, les gaz de schiste, les pétroles de schiste, au-delà de leurs conséquences désastreuses sur la santé, les paysages, etc., elles ont en plus une vraie difficulté, c'est que ce sont des énergies carbonées, donc des énergies qui génèrent de la pollution atmosphérique notamment, et que clairement c'est une menace qui est une menace aujourd'hui incontestable. Donc dans le programme, on affirme l'objectif de sortir du nucléaire, de passer à 100% d'énergie renouvelable en 2050. Dans le chiffrage du programme, on dit que dans le plan d'investissement qu'on souhaite mettre en place pour la France, il y a une somme conséquente qui est consacrée à la transition écologique, au passage à 100% d'énergie renouvelable, en nous appuyant notamment sur le scénario qui est le scénario de Négawatt, donc qui passe par la substitution et le développement des énergies renouvelables, mais aussi par des politiques de sobriété énergétique, de rénovation thermique des bâtiments, voilà, qui sont un impératif écologique et aussi un impératif économique parce qu'elles permettent de créer beaucoup d'emplois.
Selon vous, justement, pour assurer cette transition énergétique, quel mix énergétique faudrait-il pour la France ?
C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que nous, on s'appuie sur le scénario négawatt. Donc, scénario négawatt, c'est-à-dire que au fur et à mesure que les centrales arrivent et atteignent leur durée de vie, plutôt que de prolonger leur durée de vie, on les ferme et qu'on fait monter en puissance les énergies renouvelables on engage des programmes qui sont des programmes de sobriété énergétique. Il ne s'agit pas de remplacer le nombre de kilowattheures aujourd'hui produits par le nucléaire ou les énergies carbonées par le même nombre de kilowattheures fournis par les énergies renouvelables. Il s'agit de réduire la consommation énergétique nationale et de substituer aux énergies carbonées et nucléaires les énergies renouvelables.
Quelle gouvernance mettriez-vous en place concernant la politique énergétique de la France ? Centralisation, décentralisation, relocalisation ?
D'abord, clairement, pour nous, on est clairement opposé aux politiques de privatisation des opérateurs énergétiques qui ont été mis en place ces dernières années. Et nous sommes favorables dans le programme à un pôle public de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on considère que l'énergie fait partie des ressources vitales, donc de l'intérêt commun de l'ensemble des habitants de la nation et qui doivent donc être gérés collectivement. Ce pôle public, il est à notre avis le seul outil qui permet de mettre en place cette politique de transition vers le 100% renouvelable, puisque c'est un pôle public qui ne serait pas soumis à des logiques de rentabilité financière, mais à des logiques d'intérêt général et de politique publique décidées par les citoyens au cours de leur vote. Alors dire un pôle public de l'énergie, ça ne veut pas dire un pôle public uniquement centralisé. Et clairement, pour nous, il faut aussi démocratiser la gestion des services publics. C'est pour ça que dans le programme de l'Avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon, on souhaite aussi des politiques qui permettent d'associer les usagers à la gestion des biens communs et donc notamment à la gestion de l'énergie. Donc c'est un pôle public, un organisme national, mais des politiques d'association des citoyens, que ce soit au niveau national ou au niveau local.
Quelles sont, pour Jean-Luc Mélenchon, les priorités pour la recherche dans le secteur énergétique ?
Bah clairement, c'est la conséquence de ce que je vous dis là, c'est-à-dire que clairement, il y a une priorité qui est dans le développement des énergies renouvelables. Alors quand on dit énergie renouvelable, on pense souvent au solaire ou à l'éolien. Nous, on pense qu'il faut mettre des moyens dans le développement d'autres formes d'énergie renouvelable qui... Il y a une politique de recherche dessus ces dernières années, mais qui est sans doute pas suffisante. Je peux parler de la géothermie, je peux vous parler de toutes les énergies maritimes. Clairement, dans le programme, on parle d'un plan mer, c'est-à-dire d'un investissement conséquent dans l'économie de la mer, puisque c'est des formes d'énergie, que ce soit les marées motrices, les éoliennes en mer, qui permettent d'augmenter la capacité de production d'énergie en France par les énergies renouvelables. En plus, c'est un plan mer qui pourrait créer, dans le programme, on l'a chiffré à 300 000 emplois, donc c'est une nécessité, mais c'est aussi un volant d'entraînement pour l'ensemble de l'économie. Donc voilà, les priorités, elles sont clairement dans le développement des énergies renouvelables. Ensuite, il y a une autre priorité, parce que quand on veut être conséquent, et si on parle de fermer les réacteurs nucléaires, aujourd'hui, personne ne sait démanteler un réacteur nucléaire. Donc il y a aussi, c'est indispensable et nécessaire, de la recherche sur comment démanteler, comment traiter les déchets nucléaires. Voilà. Donc les conséquences de la sortie du nucléaire doivent aussi être prises en compte, et notamment être prises en compte par une politique de recherche ambitieuse.
Quelles mesures d'incitation, de sensibilisation, mais aussi d'éducation, de pédagogie, prendriez-vous à destination des citoyens concernant cette transition écologique ?
Bah, plutôt que des bien sûr il faut des mesures d'incitation, de pédagogie, un éveil à la biodiversité à l'école, on peut parler de fermes biologiques pour que les enfants voilà soient sensibilisés aux questions environnementales, de préservation de la biodiversité. Bon, il y a des mesures incitatives qui sont nécessaires, mais au-delà des mesures incitatives, il y a des mesures concrètes immédiates qu'on peut prendre. Donc par exemple, nous on propose de lancer un grand plan de rénovation du bâti pour mettre un terme au gaspillage énergétique. Donc voilà, des mesures incitatives, mais aussi des mesures immédiate, parce que d'abord les gaspillages, les fuites énergétiques, c'est quelque chose qui est désastreux pour l'environnement, puisqu'on gaspille de la production énergétique, qui est souvent aussi désastreuse pour le porte-monnaie, puisque c'est souvent des factures de gaz, d'électricité qui explosent. Donc voilà, des idées de mesures qu'on pourrait mettre en place immédiatement pour de l'éveil, mais aussi pour lutter immédiatement, dès maintenant, contre les gaspillages énergétiques, et donc pour la transition écologique.